jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le sommaire de notre numéro de la semaine. Elle crée la polémique et génère de la méfiance. Et on n'y comprend pas toujours grand-chose. Doit-on avoir peur de la 5G? Guy Pujol, spécialiste international des réseaux, professeur à Sorbonne Université, auteur d'un ouvrage sur le sujet, répond à toutes nos questions dans un instant. Elles ne sont plus seulement la seule affaire des sportifs. Accessoires de mode et de confort, les baskets font aujourd'hui l'unanimité. Alors comment bien les choisir? Réponse et décryptage de cette tendance avec Eric Flieger, chef de produits chaussures dans un grand magasin. C'est la saison de la cueillette des champignons. Ils sont donc à l'honneur dans Nous voilà bien. Comment les consommer sans risque? Sonia Esguignan, cuisinière, auteure et journaliste, nous livre le secret de ses recettes. On a cherché un son qui pourrait illustrer la 5G. On félicite Alexandra Polaczyk, la productrice de cette émission. Guy Pujol, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes informaticien, spécialiste international des réseaux et auteur du livre « Faut-il avoir peur de la 5G chez Larousse ?» Vous allez nous le dire dans un instant, mais c'est quoi exactement la 5G? Donnez-nous un cours comme si on était en CM2.
La 5G, comme son nom l'indique, ça forme la cinquième génération de réseaux de mobiles.
D'accord.
Il y a une génération approximativement tous les 10 ans. Et la 5G a pour objectif d'augmenter fortement la productivité des entreprises et indirectement, elle offrira de nouveaux services aux utilisateurs.
Donc en fait, c'est plus puissant que la 4G, que la 3G. On va crescendo dans la puissance, c'est ça?
Oui, alors dans la puissance, ça dépend de quelle puissance on parle. Si c'est de la puissance du rayonnement électromagnétique, non. La 5G va plutôt avoir moins de rayonnement électromagnétique.
D'accord. Alors on va essayer de faire un point quand même. C'est une révolution technologique.
Tout à fait. C'est une révolution, mais elle n'est pas visible aujourd'hui. Elle ne sera visible que dans quelques années, lorsque toutes les applications de la 5G seront vraiment proposées.
D'accord.
Ces applications, donc il y a le haut débit en mobilité, l'Internet des objets, donc raccorder des milliards d'objets. Mmh. Et puis, il y a des services qu'on appelle les missions critiques, hein, qui sont des services dans lesquels le temps de réaction doit être très, très court, de l'ordre, disons, de la milliseconde, comme la chirurgie à distance, par exemple.
Mais attendez, pourquoi elle fait tant parler la 5G? Parce que la 3G et la 4G, je n'ai pas le souvenir qu'elles aient suscité autant de débats.
C'est vrai que c'est un petit peu un problème français, un peu en Angleterre, un peu en Belgique.
Ouais.
En France, la 5G est vue comme un symbole de l'accélération des progrès technologiques, de la question de leur réelle utilité et finalement de leur dangerosité pour la planète. C'est un petit peu le fond du débat. Je ne suis pas sûr que ce soit la 5G proprement dit qui se prend en débat.
Alors, on va revenir là-dessus justement. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle est indispensable, cette 5G?
Cette 5G, dans les faits, elle ne verra le jour que vers 2024-2025.
Ok.
En attendant, ces nouvelles applications 5G qui ne sont pas encore réellement développées, il faut déployer le réseau. Et déployer le réseau, ça demande pas mal de temps. Donc, pendant 3-4 ans, la 5G ne sera pas vraiment utile. Elle va avoir un tout petit peu plus de débit, certes, mais les vraies applications qui révolutionnent le monde de l'entreprise ne seront disponibles que dans quelques années.
D'accord, mais dans quelques années, elle sera vraiment utile.
Absolument, elle sera utile via les entreprises.
Ok. Alors, si elle est utile dans quelques années, la 5G, est-ce qu'elle est indispensable? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi en tant que particulier au quotidien?
Elle va vous apporter un débit plus important, mais pas vraiment de nouvelles applications.
D'accord. Donc, en fait, elle va m'apporter quoi? Un débit plus important? C'est-à-dire que je vais pouvoir accéder plus rapidement encore aux informations sur mon smartphone?
Tout à fait. Vous aurez une télévision de meilleure qualité. Vous aurez de la vidéo de meilleure qualité.
D'accord.
Vous aurez effectivement des temps de réponse meilleurs, un temps de réaction meilleur. Vous allez à peine vous en apercevoir.
Ah bon? Bah alors, justement, à quoi ça sert?
Ça va servir aux entreprises.
D'accord.
D'avoir des nouveaux services qui pourront être utiles pour les particuliers ensuite.
Donc ça n'est pas vraiment pour le particulier, mais c'est plus pour le domaine de l'entreprise que la 5G est utile, voire donc indispensable pour les années qui viennent. Bon, est-ce qu'elle est dangereuse, cette 5G?
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, énormément, hein, des centaines d'études sur des années. Et pour le moment, ces études n'ont pas démontré de dangerosité. Donc, la réponse à la question « est-ce que l'ANSES, qui va donner un rapport dans quelques mois, sera différent ?» Il ne peut pas être différent, parce qu'une étude sanitaire sur la 5G demande des années. Et donc, ça peut être une compilation des résultats que l'on connaît déjà. Donc, si les puissances sont respectées, donc si les émetteurs n'émettent pas plus fort qu'aujourd'hui, ben, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème de santé.
D'accord. Mais donc, c'est si. Voilà. Si, en respectant certaines conditions, il n'y aura pas de problème de santé. Mais si ces conditions-là ne sont pas respectées, est-ce qu'on peut avoir des problèmes de santé ?
Tout à fait. D'accord. Bien sûr. C'est comme, si vous voulez, des ondes sonores, qui sont aussi des ondes électromagnétiques. Si vous mettez votre oreille contre une cloche qui sonne pendant une heure, ben, vous n'allez pas être bien. Ben, c'est pareil. Hein. Ce sont des ondes électromagnétiques. Si vous êtes trop près d'une antenne, eh bien, effectivement, là, ça peut devenir dangereux, mais vous serez au-dessus des seuils à respecter.
D'accord, mais donc ça nécessite quand même une véritable réglementation de la 5G pour qu'elle ne soit pas dangereuse. Il faut qu'en tant que particulier, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines angoisses et certaines inquiétudes aujourd'hui qui sont fondées si l'on ne respecte pas ce que vous venez de nous dire.
Absolument, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mesures sans arrêt qui prouvent que les puissances sont bien respectées.
Ouais, c'est pas rien. On va se retrouver dans un instant, Guy Pujol, on a encore des questions à vous poser sur l'environnement. Et puis, alors beaucoup s'interrogent, hein, évidemment, quid de nos données personnelles ? Est-ce que la 5G a un moyen de nous fliquer, de nous épier. Vous allez répondre à toutes nos questions dans un instant. Et puis, on parlera sneakers, on parlera des baskets avec donc Eric Fliegler. Et puis, je ne sais pas si vous aimez les champignons, mais en tout cas, Sonia Esgulian va vous donner envie de les goûter.
Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Avez-vous succombé à la folie des baskets ? Parce qu'on va en parler dans un instant avec Eric Fliegler. Avez-vous succombé au plaisir des champignons ? Je parle des champignons qu'on va chercher dans la forêt, hein, pas les hallucinogènes. Hein. C'est Sonia Esgulian qui nous donnera des recettes dans un instant. Mais pour l'heure, on parle de la 5G.
Qu'est-ce que tu me racontes là ?
Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Guy Pujol ? Vous êtes informaticien, vous êtes spécialiste international des réseaux. On apprend plein de choses sur la 5G parce qu'on n'y comprenait pas grand-chose. Bon, alors, il va falloir vraiment respecter certaines mesures de diffusion de la 5G. Sinon, ça peut être effectivement mauvais pour notre santé. Vous nous l'avez expliqué, c'est une révolution technologique, mais qui n'aura pas non plus un impact hallucinant sur notre quotidien, si j'ai bien compris. Nous, en tant que particuliers, ça va faire tourner des entreprises peut-être davantage, mais nous, en tant que particuliers, ben voilà, on aura accès à des informations plus rapides, le haut débit et compagnie. Maintenant, est-ce que c'est mauvais pour l'environnement ? Parce que c'est quand même une question importante, ça, Guy Pujol.
Oui, l'environnement, c'est un vrai problème, assez complexe, parce que, justement, il va y avoir maintenant des centres de données qui vont être ajoutés dans ces réseaux 5G, et ce sont des machines qui dépensent pas mal d'énergie. Mmh. En revanche, les antennes vont être beaucoup moins gourmandes. Mais faire la somme des deux n'est pas si simple que ça. Ce que l'on peut dire, certainement, c'est que la consommation va augmenter avec le débit, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de débit, mais ça devrait être raisonnable.
Enfin bon, c'est quand même pas rien. Franchement, vous êtes pour ou vous êtes contre, Guy Pujol, la 5G, vous ?
Moi, je suis pour, parce qu'effectivement, économiquement, c'est un environnement qui va devenir totalement indispensable aux entreprises. Les entreprises qui n'iront pas vers la 5G vont prendre du retard.
Donc, en fait, vous êtes pour dans le sens où on n'a pas le choix. Il ne faut pas qu'on soit en retard par rapport au reste du monde, c'est ça ?
Tout à fait.
On a quoi ? On a 4-5 ans pour mettre en place tout ça ?
Oui, d'accord. Absolument.
En fait, en sortant de ça, moi, je ne sais pas si je vais être Amish ou vivre en 2020, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
C'est un petit peu compliqué, en fait, parce que c'est un petit peu, je trouve, inquiétant. Alors, pour ceux qui se posent toujours des questions sur la 5G, moi, je les invite à lire votre ouvrage « Faut-il avoir peur de la 5G ?» C'est aux éditions Larousse. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, Guy Pujol. Vous êtes un bon professeur. Moi, je vous donne un 20 sur 20, vous voyez. Donc, voilà, je vous prends. Et dites-moi, il y aura une 6G, une 7G, une 8G aussi, un jour ?
Alors, oui, bien sûr, tout à fait. La 6G, on travaille déjà assez fortement dessus.
Ouais, d'accord.
Okay. Je peux vous dire tout de suite, c'est que ça va être une automatisation et une intelligence beaucoup plus grande.
Une intelligence quoi ?
Une intelligence où tout sera automatiquement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de personnel pour gérer la structure de la 5G. Tout se fera commandé par des data centers, justement.
Ça me fait trop peur ce que vous me dites, Guy Pujol. Il n'y aura plus d'êtres humains sur Terre. On va finir comme Wall-E, quoi. Oh là là.
Ah non, ils auront d'autres travaux à faire. Hein. Il faudra les contrôler, ces ordinateurs, ces data centers.
Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, mais enfin, bon, on est quand même dans une mutation. Hein, c'est ce qu'on entend. Je vous remercie beaucoup, Guy Pujol, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur le professeur. Vous portez des baskets, vous ?
De temps en temps, ça m'arrive.
Ah bah voilà, bah écoutez-nous, écoutez la suite, on va apprendre plein de trucs. Merci beaucoup Guy Pujol, à bientôt sur RTL.
Merci, au revoir.
Oh là là. je ne sais pas en quelle année c'était les four bandes, on va dire quoi, allez, 80, 90 quoi, hein, on était 80 plutôt, oh, incroyable. À l'époque, c'était pas du tout les mêmes chaussures qu'aujourd'hui. Eric Flieger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes chef de produits chaussures de marche Décathlon. Bon, c'est un peu la folie quand même de la basket, hein. Tout le monde en a aujourd'hui, hein. Les hommes, les femmes, les petits, les grands, le sport, le quotidien, avec un costard, avec un jean, avec une robe. Aujourd'hui, tout le monde a une basket au pied.
Ah ben c'est exact. Hein. Vous avez aujourd'hui une mode autour des baskets, on appelle ça aussi des chaussures de sport, hein, plusieurs noms pour les nommer. Et c'est un phénomène qui n'est pas forcément un phénomène de mode, hein, parce que c'est une tendance qui fait son entrée dans le quotidien des personnes depuis plus de 20 ans.
Ah, depuis plus de 20 ans, mais ça s'est fait progressivement. Moi j'ai l'impression que c'est la folie depuis 5-6 ans.
Alors ça s'accélère depuis plus de 20 ans parce que l'uniforme qui était utilisé en entreprise aujourd'hui fait place à une tenue qu'on choisit. Mmh. Donc les gens peuvent choisir les belles chaussures, des chaussures qui leur vont et qui vont passer avec leur équipement prêt à porter. On parle maintenant aujourd'hui même de prêt à se porter. C'est une tendance un peu plus lourde en ce moment qui fait que les baskets qui étaient avant des outils de sport deviennent des sneakers, donc un produit qui est acheté pour le quotidien et même plus pour faire du sport.
À la base, c'est pour des raisons pratiques, de santé, de confort, parce que franchement, entre une paire de baskets et une paire de talons, il n'y a pas photo, quoi. En tout cas, en ce qui concerne les femmes. Mais qu'est-ce qui a motivé d'abord le port de la basket? C'est le confort?
Oui, je pense que vous l'avez très bien résumé. Alors moi, je ne porte pas des chaussures à talons.
Mais vous devriez essayer, c'est pas mal.
Pourquoi pas? Bonne idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chaussures de sport sont faites pour rendre un usage sportif confortable. Et donc, finalement, les porter au quotidien, on est presque un athlète, un sportif du quotidien. Quand aujourd'hui, vous le voyez avec les grèves qu'il y a eu dans certaines villes, avec l'épisode de pandémie que vous avez en ce moment, les gens changent leur manière de se déplacer, leur manière de faire du sport ou dans le cas de sportiver leur quotidien. Et donc, naturellement, ces produits sportifs prennent une place importante dans le quotidien.
Dites-moi, je dis basket, sneaker et tout, mais c'est le même combat, c'est la même chose?
En fait, sneaker, c'est un terme qui veut dire chaussures de sport. Clairement, on est sur un usage qui va être une catégorie, en fait, qui va être maintenant utilisée sur une sorte d'héritage. Un héritage de mode, un héritage de produits. Vous parliez des années 80-90. Mmh. Donc, tous ces modèles qui étaient des produits de sport fortement utilisés en pratique deviennent des produits de mode, en fait, qui sont portés au quotidien. Donc, je n'ai pas cité de marque ou de produit, mais vous avez des produits iconiques qui sont des anciens produits énormément utilisés en pratique sportive.
Bah, on peut citer trois marques, alors allons-y. Vous parlez quoi? Des Jordan?
Oui, des Air Force One de la marque Nike. On peut parler des Stan Smith, qui est un produit très iconique de chez Adidas, qui était une chaussure de tennis utilisée donc par Stan Smith, mais également un joueur de tennis français. Et donc Stan Smith, joueur de tennis américain, Adidas a voulu pénétrer ce marché-là. Ils ont nommé leur chaussure du nom de ce joueur-là. Et aujourd'hui, c'est très peu utilisé en tennis finalement, beaucoup dans la mode et dans le quotidien.
Mais ça a quand même énormément évolué, parce qu'en même temps, jouer au tennis aujourd'hui avec des Stan Smith, ça paraîtrait complètement délirant et pas du tout adapté à ce sport-là. C'est-à-dire que la chaussure de sport a aussi tellement évolué ces dernières années.
Tout à fait. Nous, dans mon métier, moi, on me demande d'étudier l'utilisateur et de faire le nécessaire pour que dans cet usage-là, il soit le plus performant possible. Donc les technologies évoluent, mais on a aussi une entrée de ces technologies dans le quotidien. Moi, j'ai en tête les amortis qui sont de plus en plus demandés aussi au quotidien. Mmh. Certaines membranes imperméables, des bandes réfléchissantes qui vont être de plus en plus acceptées aussi au quotidien parce que la mode se sportive de plus en plus. Hein, c'est pour ça que j'utilisais prêt à se porter. Mais aussi, les styles sportifs deviennent urbains. Mmh. Les équipementiers s'adaptent et ils vont essayer de trouver des chaussures qui vont aussi bien passer avec un short de sport, mais avec un jean aussi.
On va se retrouver dans un instant parce qu'on n'a pas fini de vous poser des questions. Est-ce que confort et style vont de pair? Moi, il y en a. Écoutez, il y a un truc qui me sidère aussi parce que c'est devenu un accessoire de mode, mais il y en a qui sont très très moches et qui coûtent très très cher. Donc je voudrais qu'on en parle et que vous m'expliquiez pourquoi. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Dans un instant, on va aller chercher des champignons avec Sonia Esguillon. Mais on partira avec nos bottes en caoutchouc. Mais pour l'heure, on chausse nos baskets.
Elle a toujours les cheveux raides, un pull et des baskets.
Je la connaissais pas, cette chanson de Michel Delpech. Trop bien.
Quand ça peut lui faire plaisir.
Eric Flieger, vous la connaissez,
oui,
cette chanson de Michel Delpech, la fille avec des baskets?
Pas du tout. Après, je suis né en 84.
Gna 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 gna. On est en train de nous dire qu'on est des vieux. Ouais.
Pas du tout. Hein. Éternellement jeune, la vie pour moi.
Oh, merci. Et ça vous plaît, les filles en basket? Parce que c'est votre dada, la basket, vous, puisque vous êtes chef de produit chaussures de marche.
Tout à fait. Alors, j'ai une petite déformation professionnelle, c'est que je regarde d'abord les pieds des femmes avant de regarder leurs yeux.
Oh là 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 là, super. Bon, alors, je porte des baskets aujourd'hui. Mais parfois, il y en a des très très moches et qui coûtent très 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 cher. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est justifié? Une paire de pompes, alors pardonnez-moi, mais je vais vous dire Yeezy, mais il y en a peut-être d'autres, qui parfois culminent à des prix 20, 25, 30 000 euros. On est en plein délire.
Alors, 25, 30 000 euros, effectivement, c'est un vrai
délire.
Mais ça
existe, on est d'accord.
Bien sûr.
Mais c'est ça qui est dingue.
Il y a un phénomène de mode aujourd'hui autour des baskets, en plus de cette tendance dont je vous parlais, qui fait que les marques s'engouffrent dedans, notamment les créateurs. Je vais pas forcément citer de créateurs, mais vous avez tous les grands créateurs aujourd'hui qui se lancent dans des baskets de mode. Et en parallèle de ça, donc, ils font monter les prix parce qu'eux, ils ont une volonté de pratiquer des prix et surtout de la rareté.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, mes enfants me disaient que c'est presque un investissement, comme à une époque, en fait, on investissait dans un artiste qui démarre. Bah, en fait, investir dans une paire de chaussures aujourd'hui, c'est une façon aussi de placer son argent, c'est vrai? C'est devenu un marché?
Il y a un marché de la sneaker aujourd'hui, notamment sur les modèles iconiques. Maintenant, pour pouvoir avoir un bon placement, il faut aussi bien l'entretenir, ou en tout cas, il ne faut pas l'utiliser. Donc, si vos enfants achètent des Yeezy, par exemple...
Il faudrait qu'ils puissent acheter des Yeezy.
Mais voilà, il faudrait surtout qu'ils ne les portent pas, et je pense que le but, c'est quand même de les porter, les baskets. Certaines personnes vont boursicoter, en tout cas, faire des placements sur les chaussures, mais ça reste relativement rare. On les utilise surtout, et c'est ce qui est le plus important.
D'accord. Bah,
maintenant, elles ne sont pas forcément toutes au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de flambée de prix autour de certains modèles qui parfois injustifiés, hein, comme vous le disiez, des baskets qui vont être chères mais qui n'ont pas la qualité qui vont avec.
Dites-moi, comment bien choisir ces baskets justement? Si c'est pas une question de look, si j'ai envie d'avoir une bonne paire de baskets au quotidien et de ne pas avoir mal aux pieds parce que je galope dans tous les sens.
Alors déjà, quand on choisit une basket, ça peut être en fonction d'une pratique. Donc si vous parlez du quotidien, déjà c'est très important de venir chercher une basket qui a sa bonne taille. Souvent, on fait de la confusion de se dire bah, « je fais 43, donc je vais faire 43 dans toutes les marques ». C'est faux. Chaque marque est propriétaire du volume qu'il va mettre dans ses chaussures. Donc il faut essayer, soit en usage, soit en magasin. Il faut savoir qu'il y a des enseignes de sport, une bien connue notamment, qui va proposer d'essayer avant d'acheter. Parce que ce n'est pas en étant statique en magasin que vous allez savoir si les chaussures, les baskets, vous tiennent une journée ou en fonction des intempéries que vous pouvez avoir. Nous, on conseille de prendre une pointure supplémentaire, en général que la pointure de chaussures de ville classique, parce que le pied est quelque chose de vivant qui va avoir tendance à gonfler dans l'usage. Souvent, on a les jambes lourdes, les pieds gonflés au bout d'une journée où on a marché toute la journée. Sinon, bah, on peut vite arriver au bout de la chaussure et donc avoir des échauffements, des ampoules, etc.
Eric, la matière, ça a son importance?
Oui, ça dépendra surtout de l'usage qu'on en fait. Les conditions qu'on a en extérieur, donc la météo, et les terrains de pratique. Ce qui est important, en tout cas, c'est que la matière, elles doivent être confortables, les chaussures, en tout cas ce que nous on appelle le confort, de l'amorti, un bien allé, pas de zone de frottement ou de points durs. Mais bien évidemment que je ne choisirai pas les mêmes chaussures sur du bitume par temps chaud que dans une forêt ou avec du dénivelé par temps pluvieux. Si on parle de la marche et du quotidien, en tout cas pour moi le point le plus important, c'est la flexibilité. Si la chaussure est flexible, ça va donner la possibilité aux pieds d'avoir un déroulé de pied naturel, un mouvement naturel, non contraint, et donc c'est ce qui les rend confortables.
D'accord. Basse ou montante?
Pour moi, ça dépend une fois de plus de l'utilisation, mais on va dire que pour la majorité des sports, et notamment une utilisation quotidienne, c'est mieux d'avoir une chaussure basse parce qu'on a une meilleure liberté de mouvement. Oh. Maintenant, il y a des sports et des pratiques qui nécessitent des chaussures montantes. Je pense à la randonnée notamment, le basketball. Mais également, on sait qu'en hiver, on a envie d'avoir ce côté un peu plus... de réchauffer les chevilles et les jambes avec des chaussures montantes. Cela dit, c'est une contrainte au mouvement naturel. Vous avez aussi une mode actuellement qui est de montrer ses chevilles. On le voit chez les jeunes. Même en hiver, d'avoir les chevilles découvertes. Donc, on utilise des chaussures basses.
Dernière question, lacets ou scratch? Ça change un truc ou pas?
Ça change quelque chose en usage.
À part que nous, c'est plus rapide pour aller à l'école ou au boulot le matin.
Alors justement, les enfants, eux, préféreront des scratchs pour des besoins de facilité d'enfilage. Mais également les personnes qui ont du mal à se baisser ou qui ont des pathologies. D'une manière générale, on privilégie quand même les lacets parce que ça permet d'avoir un meilleur maintien et de mieux serrer les pieds. On a une capacité de serrage qui est plus optimale.
Donc, va pour le lacet, quoi.
Par contre, il y a une tendance énorme en ce moment sur les scratch, notamment tous ces modèles iconiques dont je vous parlais qui reviennent à scratch, parce que c'est ce que veut la mode, là, pour le coup.
Merci beaucoup, Eric Figuer. C'était super intéressant de parler avec vous. Je rappelle que vous êtes chef de produit chaussures de marche Décathlon. Et dites-moi, vous aimez les champignons, Eric?
J'adore les champignons.
Ah, génial. On part en forêt dans un instant avec Sonia Esgulian. À bientôt, Eric Figuer.
À bientôt. Merci beaucoup.
Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi.
Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. C'est un légume le champignon?
Mais oui, d'un point de vue botanique, c'est un peu particulier. Mais effectivement, on le considère en cuisine comme un légume en garniture.
D'accord. Il en existe beaucoup de variétés ?
Alors, je pense qu'il y a à peu près 100 000 espèces, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a qu'à peu près 1000 qui sont comestibles. Donc attention.
Alors, c'est mon angoisse.
À la cueillette.
Alors, on va y aller direct. C'est ma grosse angoisse. Quand on prend un champignon, quel qu'il soit, même si on a l'impression de le connaître, on va chez le pharmacien pour se faire valider sa non-toxicité.
Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec vous.
Je
ne connais absolument pas assez les champignons pour avoir l'idée de les cueillir toute seule. Soit on connaît quelqu'un qui est vraiment très pro, qui connaît bien les champignons et là, pas de problème. Mais sinon, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller vérifier sa cueillette auprès du pharmacien. En revanche, je ne fais absolument pas confiance aux applications où on fait une petite photo. Là, quelques secondes après, on a la réponse. Alors ça ne m'inspire pas. Du tout.
Alors, on va se retrouver dans un instant, justement, parce qu'on va en parler avec vous, Sonia Esgulian. Et puis, une fois qu'on sera sûr d'avoir les bons champis, eh bien, on se fera de bonnes recettes et on va se régaler. À tout de suite sur RTL.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Ils ont plein de noms. Ce sont les champignons. On s'y retrouve aujourd'hui avec Sonia Esgulian. Petite recette après quand même, hein, de toute façon, Sonia
Esgulian,
et pas que la crêpe. Dites-moi, alors, vous n'y croyez pas aux applications, hein, y a des applis qui permettraient de savoir si le champignon qu'on vient de cueillir est comestible. Voilà, s'il faut pas rigoler avec ça, il faut aller vérifier toujours les champignons que l'on ramasse chez le pharmacien. C'est mortel,
oui, alors,
d'ailleurs.
Très importante, c'est quand on ramasse, on essaye d'avoir prévu avec soi des petits sachets en craft, vous savez, ceux qu'on récupère des légumes qu'on a achetés pendant la semaine, parce qu'il ne faut pas mélanger les champignons, parce qu'évidemment, s'il y a des champignons qui sont non comestibles, voire très dangereux, ils peuvent contaminer les bons champignons qu'on aura éventuellement sélectionnés. Donc, dans la mesure du possible, quand on ramasse les champignons, on les ramasse par petites familles.
Très bien. Je rappelle quand même, hein, que les autorités s'en sont mêlées, hein, d'ailleurs, elles viennent de nous mettre en garde contre la fiabilité des applications, donc voilà. Maintenant qu'on s'est dit ça, on sait qu'il faut avancer sérieusement et que souvent d'ailleurs, les champignons les plus dangereux sont les plus jolis.
Et oui, c'est ça.
Bah ouais, mais il faut le savoir, quoi. Un petit champignon qui fait un peu champignon schtroumpf, il est très mauvais pour la santé, il faut faire super attention.
Il faut être très humble par rapport à la nature. On ne connaît pas,
exactement.
On fait vérifier, un point c'est tout. Surtout que c'est un petit peu bête de risquer sa vie juste pour manger une omelette ou une poêlée de champignons persillade. C'est un peu dommage.
D'accord. Quand on les achète dans le commerce, comment est-ce qu'on les choisit ?
D'abord, tous les champignons des bois doivent être bien fermes. Je pense notamment aux pleurotes, aux girolles, etc. Pas de petites parties sur le bord qui semblent un petit peu molles, un petit peu passées. Ça, c'est très, très important. Et quand il s'agit de champignons type champignons de Paris, cèpes, bolets et autres, le champignon est bien fermé. On ne voit pas les petites lamelles. En fait, on retourne le champignon et on regarde bien que le chapeau soit bien, bien fermé. On ne doit pas voir les lamelles. Et évidemment, le champignon est bien lisse et très ferme.
Comment je le nettoie, mon champignon ? Je le nettoie juste avec une petite brosse ou je peux le passer sous l'eau ?
Normalement, les champignons, en fait, avec un petit couteau d'office, on peut gratter le pied s'il y a un petit peu de terre. Et ensuite, on a un pinceau, une petite brosse, et on va enlever, en fait, surtout pour les champignons des bois qui auront été cueillis, toutes les épines de pin, des petites traces de mousse ou autres, etc. Et puis, pour les champignons de Paris, il y a une petite technique qui permet d'enlever juste une peau très, très fine sur le champignon. Mais il faut surtout pas les faire tremper dans l'eau parce qu'alors là, ils vont se gorger d'eau.
D'accord.
Et après, on va prendre trop de temps dans la poêle à les faire suer pour perdre l'eau de végétation. Et là, c'est dommage parce qu'on perd aussi le goût.
Et dites-moi, on peut manger les pieds, les champignons ?
Ah ben oui.
Certains les ont.
Alors très souvent, mais c'est pas le même goût, c'est pas la même texture. Moi, très souvent, quand je fais, par exemple, une salade de champignons crus, je garde plus particulièrement le chapeau que je trouve plus doux, plus tendre. Mmh. Et puis alors, tous les pieds, par exemple, je les coupe en petits dés. Et je vais les mettre dans une sauce. Alors, les dés de pieds de champignons, je les fais revenir avec une échalote, j'ajoute un petit peu de crème, et on mange ça avec du quinoa, des pâtes, etc. C'est délicieux.
Je pensais aux champignons, vous parliez des champignons de Paris, mais il y en a qui viennent des Pays-Bas, donc on nous ment sur la marchandise.
Malheureusement,
c'est bien ça ou pas ?
C'est-à-dire que malheureusement, le champignon de Paris a le même problème que les escargots de Bourgogne. C'est une appellation, c'est pas une origine. Donc en fait, il n'y a pas 50 solutions. Si on l'achète dans une petite barquette au supermarché, on regarde d'où ça vient. Il y a des champignons de Paris qui sont cultivés en France. Les Pays-Bas, c'est le pays qui cultive le plus de champignons. Donc évidemment, ils inondent le marché. Donc il faut vraiment regarder l'origine quand on achète la barquette. Et quand on est sur le marché, eh bien, il y a encore beaucoup de gens qui font leurs petits champignons de Paris. Et ça, c'est quand même top de les soutenir.
Il faut les consommer rapidement, les champignons. On ne peut pas les garder trop longtemps.
Ça noircit très vite. Alors si on fait sa fameuse petite cueillette, qu'on est bien sûr qu'on a tout vérifié, le plus important, c'est de les nettoyer très vite. Deux solutions, soit on peut les faire sécher, les champignons séchés c'est top, hein. Ça garde vraiment bien le parfum, on peut les faire sécher entiers quand ils sont petits ou en lamelles par exemple quand il s'agit de cèpes ou autre.
Comment je les fais sécher ?
Alors on a deux solutions, on peut les faire sécher sur un linge dans une pièce, attendre quelques jours et une pièce bien ventilée, ou alors on les met sur une plaque au four à 80 degrés. Alors, pour des tout petits champignons, il faut à peu près une heure. Et quand ce sont des lamelles de cèpe un peu plus larges, etc., une heure et demie. En fait, il faut toucher les champignons et constater qu'ils n'ont presque plus d'humidité et qu'ils sont bien secs. Après, on les laisse bien refroidir, on les met dans une boîte et hermétique. Hein, et
génial.
On peut les garder plusieurs mois dans l'hiver et faire des super recettes. Moi, j'ai une recette que j'ai héritée de la grand-mère de mon mari, qui est une recette catalane qui s'appelle les bols de picula. C'est une sorte de mijoté, un petit ragoût, dans lequel on va mettre des olives vertes et des lamelles de cèpe séchées. Ça donne un goût formidable. Et après, cette sauce, on en fait ce qu'on veut. On peut manger des pâtes, de la viande, des pommes de terre, ce qu'on veut avec. C'est formidable.
Comment je cuisine les champignons ? Vous savez que moi, je ne mets pas toujours de la matière grasse justement dans la poêle parce que je trouve qu'ils perdent un peu leur flotte, quoi. Et donc, je les cuisine directement sur une plaque chaude.
Normalement, moi je trouve que c'est bien, je fais exactement comme vous, je les coupe en deux, en quatre ou en plus petit selon la taille des champignons et je les fais revenir à feu vif, alors soit sur des petites plaques en fonte, soit dans une poêle avec pas de matière grasse, je mets un tout petit peu de gros sel et en fait je les fais revenir pour qu'ils perdent en fait toute l'eau, qu'ils concentrent en fait leur goût et après, quand vraiment on sent qu'ils ont bien rendu toute leur eau, on peut mettre là une toute petite noisette de beurre et une persillade parce que les champignons, ce qui est formidable, c'est tellement bon que ça accepte des recettes extrêmement basiques, genre la poêlée persillade ou alors simplement une belle omelette, ça c'est magnifique avec des champignons, ou des recettes un petit peu plus sophistiquées.
Alors justement, on part sur la recette, le pain perdu au cèpe. Alors déjà, moi le cèpe, c'est bientôt la saison là, enfin on est en plein dedans, non ?
Ah bah voilà, oui. Là on est en plein dedans, en plus le comme cèpe. Il a fait beau, il a replu, il a fait beau,
qu'est-ce que c'est
normalement on devrait avoir une belle saison.
Bon, alors comment je fais mon pain perdu ?
Le pain perdu, moi je le fais avec une brioche. Alors soit on a le temps de faire sa brioche maison, très souvent moi dans la brioche, quand je la fais maison, moi ce que je fais, j'ajoute une petite astuce, je prends des cèpes séchés que j'ai broyés et je mets cette poudre dans la farine qui va me servir à faire la brioche. Là déjà, ça donne un goût extraordinaire à la brioche. Donc ça c'est une petite brioche qu'on va déguster tout l'hiver parce que vraiment elle donne un super goût. Et ensuite, donc je vais préparer les champignons. Alors, je les coupe en deux s'ils ne sont pas très gros ou en lamelles s'ils sont beaucoup plus gros. Et là, je vais commencer à les faire revenir à sec dans la poêle. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de beurre et j'aurai réservé un petit jus de viande. Et pour ceux qui ne consomment pas de viande, on peut utiliser de la sauce soja. Ça va permettre de les caraméliser un tout petit peu. Et ces champignons, en fait, je vais les dresser sur d'épaisses tranches de cette brioche aux cèpes que j'aurais simplement donc trempé dans du lait et fait poêler donc dans ma poêle et je dépose les champignons et un tout petit peu de coriandre. Franchement, c'est un repas extrêmement simple pour le dimanche quand on n'a pas trop envie de cuisiner. On a fait sa brioche deux trois jours avant. On peut même la faire d'avance et congeler les tranches de brioche et faire cette petite poêlée de champignons légèrement caramélisés qu'on va mettre sur le pain perdu.
C'est un supplice de vous écouter.
Bah oui, mais bon, c'est bientôt l'heure de penser à ce qu'on va faire à manger.
Ah, exactement, c'est exactement ce qu'on est tous en train de se dire. On se regarde en se disant, oh là là, on sait ce qu'on va manger. On a déjà l'appétit qui s'ouvre en vous écoutant. Merci beaucoup,
c'est
Sonia.
Formidable.
C'était super de vous entendre. Merci Sonia Esguignan pour tous vos conseils. Je conseille vraiment votre page Instagram. Et
merci, puis, c'est toujours un plaisir de partager
vos livres,
mes recettes.
Vos livres, l'œuf recette et variété gourmande aux éditions Les Cuisinières et chez le même éditeur, Cuisine au fil des saisons automne, hiver. Je vous embrasse bien fort parce que vous savez comment ça se termine chez nous. Hein,
avec des bisous.
Bah oui, et puis ces fameux bisous là qu'on ne peut pas se donner, mais tellement, tellement hâte de pouvoir le faire en vrai. Merci beaucoup Sonia Esguignan. Prenez bien soin de vous. À bientôt sur RTL. Parce que c'est déjà la fin de Nous Voilà Bien, c'est le début du week-end. Profitez-en pour écouter nos replays sur RTL.fr et faire un tour sur nos réseaux sociaux. Les recettes de Sonia vous y attendront justement. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 en direct sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, 9h15 dans Nous Voilà Bien. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. À l'écoute d'RTL, je vous embrasse.
Vous écoutez RTL.